Bonjour, je suis Sophie Guédon, organisatrice de cette deuxième édition du sommet Réussir au féminin. Aujourd'hui, nous allons nous adresser plus particulièrement aux parents et aux parents qui souhaitent aider leurs enfants à déployer leurs ailes et renforcer leur confiance. En effet, l'être humain a plus de facilité à être heureux, à vivre des relations épanouissantes et à réussir aussi bien à l'école qu'au travail ou dans la vie en général lorsque son niveau de confiance est élevé. La confiance, ce n'est pas quelque chose que l'on a une fois pour toutes, c'est quelque chose qui se renforce et qui se cultive. Et en tant que parent, il est possible de jouer un rôle pour stimuler le développement de la confiance et créer une culture familiale qui renforce la confiance. C'est ce dont va nous parler Aline Tardif, auteure du livre « Développer l'estime de soi de votre enfant pour l'aider à déployer ses ailes » et du blog « Réussir ensemble ». Durant sa longue carrière en éducation, d'abord comme enseignante, puis comme directrice d'école et ensuite comme coach, Aline a développé une vaste expertise en développement de la confiance dans l'exercice du leadership. Elle va vous présenter trois clés pour développer la confiance et vous mettre sur des pistes applicables immédiatement pour que vos enfants soient plus confiants, et vous aussi. Merci Aline d'être avec nous aujourd'hui.
Merci Sophie, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de vous parler du sujet qui me passionne le plus, le renforcement de la confiance pour créer des relations saines et hautement satisfaisantes et aussi pour s'accomplir pleinement dans la vie. Alors c'est un réel plaisir d'être là Sophie.
Merci, et bien pour moi aussi. Alors donc qu'est-ce que tu nous dirais en premier, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer la confiance de nos enfants?
Bon, alors avant de vous dire ce que j'ai à vous dire pour la confiance, je veux simplement dire à tous les parents à l'écoute que je me sens honorée et privilégiée. Merci d'être là, parce que le rôle de parent, c'est un rôle très noble qui consiste à être une terre fertile pour donner aux enfants des racines et des ailes. C'est pour ça que j'ai choisi le titre « Développer l'estime de soi de votre enfant pour l'aider à déployer ses ailes » pour mon premier livre. Alors, pour que votre enfant déploie ses ailes, il a besoin de se faire confiance et de faire confiance aux autres personnes et à la vie. Et votre rôle comme parent, c'est de le guider, de l'accompagner pour qu'il adopte les comportements qui vont l'amener là. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Et je sais aussi que c'est un rôle tellement immense que beaucoup de parents vivent des peurs par rapport à leur rôle. Alors, on peut avoir peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas faire ce qu'il faut, peur que nos enfants souffrent ou manquent de quelque chose, peur de ne pas être assez présente, assez informée, assez patiente, et ça vaut aussi pour les papas, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais parler au féminin, puisque la majorité de nos auditrices sont des femmes. Alors, et on peut avoir aussi d'autres peurs, peur que de ce que les autres vont dire ou penser de certaines de nos interventions, peur que l'école appelle et parce qu'il y a un problème et qu'on ne sache pas comment remédier au problème, peur que notre enfant ne réussisse pas à l'école, peur qu'il n'arrive pas à faire son chemin dans la vie. Bon, je crois que j'en ai nommé plusieurs et peut-être que vous vous êtes reconnues dans quelques-unes, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui vous sont familières. Sachez cependant que l'intensité de vos peurs est directement proportionnelle à votre désir de leur donner le meilleur. Alors, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle. Vous avez des peurs parce que vous les aimez tellement, mais c'est aussi possible de les aimer dans la confiance. Et c'est ça que j'enseigne. Parce que dans la confiance, la vie de famille devient beaucoup plus facile et immensément plus agréable. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup cherché pour trouver comment en arriver là. Et c'est un réel plaisir, c'est merveilleux de pouvoir le partager tout ça, une partie de ça avec vous, parce qu'en à peu près une heure, on ne peut pas tout couvrir, c'est un sujet trop vaste.
Oui.
Alors, c'est ça. Alors, moi j'ai travaillé avec des milliers de parents dans ma vie, puis je suis moi-même maman et grand-maman, puis j'ai jamais rencontré un parent qui n'aimait pas ses enfants, qui ne souhaitait pas le meilleur pour ses enfants. Pas un seul. Même les parents maladroits dans leurs interventions aimaient leurs enfants, mais ils ne savaient pas trop comment. Alors, Si vous ressemblez aux autres parents, je suis sûre que vous souhaiteriez éviter les peines, les souffrances, les échecs, enfin tout ce qui cause problème. Vous aimeriez éviter tout ça à vos enfants, mais c'est tout simplement impossible. La vie, c'est fait de pluie et de soleil. Hein? Alors, de plus, ce ne serait même pas leur rendre service que de leur éviter les difficultés et les souffrances, parce que, comme le disait si bien Saint-Exupéry, l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Alors, votre rôle de parent, c'est d'accompagner vos enfants pour qu'ils puissent grandir à travers les obstacles, à travers les défis qui vont inévitablement se présenter à eux et à vous en même temps. Alors, vos peurs, vos préoccupations, vos soucis, vos inquiétudes, tout ça fait partie de l'aventure de la vie, puis vous pouvez vous en servir pour découvrir une version de vous toujours plus solide, toujours plus assurée, plus puissante, afin d'être toujours plus en mesure de guider vos enfants vers la plus grande version d'eux-mêmes. Alors, l'important, c'est pas comment vous êtes en ce moment, mais comment vous allez devenir en jouant votre rôle de parent. Être parent, c'est une aventure d'évolution. Alors, au début des années 90, lorsque je faisais ma maîtrise en psychologie transpersonnelle à San Francisco, j'ai été mise en contact avec une philosophie de l'éducation qui m'a énormément inspirée et m'a profondément marquée. Cette philosophie a été merveilleusement résumée par Ramdas dans les mots suivants. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de devenir une terre fertile, de sorte que votre enfant puisse s'ouvrir au maximum. Vous élevez un enfant en lui créant un espace d'amour et en utilisant votre expérience et votre conscience pour lui permettre de devenir tout ce qu'il peut devenir dans sa vie. Alors, en faisant tout ça, vous aussi, vous devenez tout ce que vous pouvez devenir.
Oh, dis, mais est-ce que ça voudrait dire que en tant que parent, on doit être parfait?
Absolument pas. Vous êtes déjà parfait. Parce que il faut juste être présent à ce qui se présente et faire du mieux que vous pouvez, sachant qu'un jour, vous pourrez faire encore mieux avec ce que vous allez avoir appris en faisant ce que vous faites aujourd'hui. C'est inutile de regretter le passé et il s'agit d'être soi-même du mieux que nous pouvons aujourd'hui même, en ce moment même. Et aussi, ce n'est pas tellement du faire qu'il est sage de vous préoccuper, mais du être. Comment pouvez-vous être une terre de plus en plus fertile pour donner à vos enfants cette confiance qui les élève? Voilà ce dont il va être question durant les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Je vais vous transmettre, comme on vous l'a promis, trois clés pour stimuler le développement de la confiance chez vos enfants et pour créer une culture familiale ancrée dans la confiance. Alors, avant de vous transmettre les clés promises, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que j'ai le goût d'influencer mes enfants? Et si oui, dans quel sens? Qu'est-ce que je serais fière de les avoir aidés à devenir comme adultes? Je les imagine à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Qu'est-ce que je serais fière de les voir être? Alors, beaucoup de papas et de mamans me répondent « Je serais fière qu'ils soient heureux, confiants, autonomes, honnêtes, responsables, épanouis et d'autres qualités du même genre. » Je vous suggère de choisir les trois qualités qui sont pour vous les plus importantes, celles qui sont incontournables, les qualités essentielles que vous voulez voir vos enfants acquérir, puis de cultiver ces qualités à l'intérieur de vous au jour le jour. Chaque jour, vous pouvez vous demander « qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour cultiver, par exemple, le respect ou l'honnêteté ou l'autonomie, les trois qualités que vous avez choisies. » Et en vous appliquant à développer ces trois qualités-là, vous allez en même temps vous occuper de toutes les autres. Mais lorsqu'on veut trop en mettre, on n'est pas capable d'y arriver. On se sent incapable d'y arriver et ce n'est pas bon pour la confiance. Alors, le plus sûr moyen de voir vos enfants acquérir les qualités que vous voulez voir acquérir, c'est d'être le modèle de tout ça. Alors, voilà pourquoi je vous ai invité à faire ce petit exercice et à le faire au jour le jour. Moi, je le fais encore aujourd'hui. J'ai commencé il y a une vingtaine d'années et je le fais toujours. Et c'est merveilleux comment ça aide à avancer vers ce qu'on souhaite être et ce qu'on souhaite modeler. Alors, vous voyez la pyramide d'influence de Covey dans l'aide mémoire du parent confiant que vous avez téléchargé. Alors, selon Stephen Covey, qui est auteur de nombreux livres sur le leadership et que vous connaissez probablement, les trois principales clés pour influencer sont, premièrement, le modèle que nous offrons, l'exemple de la transformation que nous souhaitons voir arriver chez nos enfants. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il est nécessaire, par contre, d'être un modèle de personne en cheminement, ouverte au changement, toujours en apprentissage. Le deuxième élément qui influence, c'est la qualité de la relation établie avec la personne que vous désirez influencer. En l'occurrence, ici, ce sont vos enfants. Et le troisième élément qui influence, ce sont les informations utiles que vous pouvez leur transmettre lorsqu'ils en ont besoin. Idéalement, les informations et les conseils, on les donne sur demande. Comme parents, on peut se permettre d'en donner sans que ce soit demandé, mais il ne faut pas exagérer à ce niveau. Donc, comme vous le voyez, la pyramide, ce qui apporte le plus, l'élément le plus important pour l'influence, c'est le modèle. Alors, et ensuite vient la relation, et ensuite vient les conseils. Ce sera plus clair à la fin de la conférence, j'espère. Alors, j'ai choisi la pyramide de Covey comme cadre de référence pour cette présentation sur le renforcement de la confiance parce que je crois que les trois éléments qui influencent le plus sont également les trois clés pour ouvrir la porte à la confiance.
D'accord. Et pourquoi, d'après toi, ce sont des clés pour ouvrir la porte à la confiance?
Parce que ce sont trois éléments qui aident les enfants et les humains de tout âge à se sentir en sécurité. Et la sécurité, c'est un besoin de base pour tout le monde. La sécurité et la confiance, ça fait bon ménage parce que quand on se sent en sécurité, on a moins peur. Ça éloigne la peur. Et quand votre enfant se sent en sécurité, comme il a moins peur, il se sent plus confiant. Et quand vous vous sentez en sécurité, vous avez moins peur, alors vous vous sentez en confiance. Le modèle que vous leur offrez, la qualité de la relation que vous entretenez avec chacun de vos enfants et les informations pertinentes que vous leur fournissez, tout ça va concourir à leur donner ce sentiment de sécurité dont ils ont besoin. C'est le premier sentiment à la base de la pyramide de Maslow, hein, si vous la connaissez. À l'aide de ces trois éléments, vous pouvez être la terre fertile qui va leur permettre de s'ouvrir au maximum. Alors, allons-y avec la clé numéro un pour renforcer la confiance, qui est le modèle que vous leur présentez. Bien sûr, vous n'êtes pas leur seul modèle, mais vous êtes le modèle sur lequel vous avez du pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir sur votre conjoint, vous n'avez pas de pouvoir sur les professeurs à l'école, mais vous avez du pouvoir sur vous-même. Alors, libre à vous de toujours raffiner le modèle pour qu'il ressemble à ce que vous voulez voir vos enfants devenir. Alors, l'enfant qui peut se fier au modèle que vous lui offrez va avoir plus facilement confiance en lui. C'est comme vous lorsque vous voulez réussir une recette de cuisine, écrire un livre ou démarrer une entreprise. Si vous avez besoin de toujours tout inventer, c'est plus lent et plus laborieux que si vous pouvez vous inspirer de quelqu'un qui a marché le chemin avant vous. Alors, c'est toujours plus facile avec un modèle. Et vous êtes un des modèles les plus importants pour vos enfants, peu importe leur âge. Même lorsqu'ils ont grandi, vous êtes toujours un modèle pour eux. Alors, soit ils veulent vous imiter, soit ils veulent faire autrement. Surtout lorsqu'ils sont adolescents, bien sûr. Mais vous n'avez pas le choix, ce que vous êtes, ça va les influencer. Alors, j'en entends plusieurs d'entre vous qui se disent peut-être, « Oh mon Dieu, c'est pas pour me rassurer, tout ça, je suis loin d'être toujours aussi patiente, aussi calme, aussi compréhensive, aussi à l'écoute que je le voudrais. Je suis pas sûre d'être toujours et en tout point un modèle inspirant pour mes enfants. » Mais si vous l'êtes, puisqu'ils vous ont choisi comme maman, vous êtes la personne toute désignée pour eux, avec vos forces et avec vos faiblesses. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas raffiner le modèle, comme je disais précédemment. C'est justement le plus beau côté du rôle de parent, à mon point de vue. En guidant vos enfants dans leur processus global de croissance, vous y trouvez votre compte, non seulement en joie et en peine, mais aussi en occasion de croissance personnelle. Parce que vous les aimez, vous voulez leur offrir le modèle le plus puissant et le plus inspirant possible. Alors, vous devenez une personne plus puissante et plus inspirante. Et cela vous sert dans tous les domaines de votre vie. Mais il y en a peut-être d'autres qui se disent, Mais j'ai rien à voir là-dedans. C'est quoi cette histoire de modèle? Quand un de mes enfants a des comportements inadéquats ou des problèmes, ça lui appartient. C'est pas moi le problème. C'est lui ou elle qui doit changer. Pourtant, Émilie, une maman qui se faisait accompagner en coaching, me disait « Avant, je pensais que c'était mes enfants qui avaient des problèmes. Il faut le dire aux parents qu'ils ont leur part de responsabilité dans les comportements des enfants. » Je suis d'accord avec Émilie, mais attention au sens que vous donnez à l'expression « ma part de responsabilité ». Pour bien comprendre le mot « responsabilité », traduisons-le en anglais. « Responsible ». Ça veut dire « able », ça veut dire « capable » et « respond », ça veut dire « capable de répondre », capable de trouver comment composer avec les situations. Vous avez plus d'expérience, vous savez comment, et si vous ne le savez pas, ben votre rôle, c'est de trouver en vous et autour de vous les ressources nécessaires pour composer avec les défis de la vie, ceux que vous vivez puis ceux que vos enfants vivent. Le mot responsable, moi je pense qu'il est trop souvent perçu comme synonyme de coupable. C'est la source de bien des problèmes, comme j'en parle dans mon livre développer l'estime de soi de son enfant pour l'aider à déployer ses ailes. Votre plus grande responsabilité, d'après moi et d'après Stephen Covey, c'est de vous occuper du modèle que vous offrez. Pour cela, je vous suggère de porter une attention particulière à trois éléments dont le nom commence par « et », votre énergie, vos émotions, votre équilibre de vie. Ainsi, vous serez plus confiante dans vos capacités et vous offrirez un modèle toujours plus inspirant à vos enfants. Allons-y avec l'énergie. Avez-vous remarqué que c'est lorsque vous êtes fatigué ou triste ou de mauvaise humeur que vos enfants sont le plus difficile à vivre? En tout cas, moi je me suis rendu compte très vite que mon énergie influençait toute la maisonnée et toute la classe lorsque j'étais enseignante. Il est, à mon point de vue, de première importance de trouver des façons de faire le plein d'énergie quotidiennement. Vous n'imagineriez pas conduire votre voiture sans faire le plein d'essence, n'est-ce pas? Alors, votre énergie, c'est votre carburant. N'attendez pas que votre réservoir soit vide. Je vous propose un petit exercice dont vous pourrez vous servir pour augmenter rapidement votre niveau d'énergie. Prenez-le en note pour le faire dès la fin de la conférence ou si vous l'écoutez enregistré, prenez-en connaissance et mettez l'enregistrement sur pause pour le faire immédiatement. Alors, le petit exercice, c'est très simple. D'abord, vous séparez une feuille en deux. Ensuite, d'un côté, vous écrivez ce qui me donne de l'énergie et de l'autre, ce qui m'enlève de l'énergie. Alors, lorsque vous aurez complété votre liste de ce qui vous donne et de ce qui vous enlève de l'énergie, pour chacun des éléments qui vous donnent de l'énergie, posez-vous la question « Depuis combien de temps je me suis permis de faire ça ?» Et pour les éléments qui vous enlèvent de l'énergie, posez-vous la question « Qu'est-ce que je pourrais éliminer, diminuer ou rendre moins énergivore ?» Par exemple, si un aliment vous rend malade, vous pouvez l'éliminer. Si une amie vous parle continuellement de ses problèmes, vous pouvez la voir moins souvent ou lui signifier que vous voulez qu'elle vous appelle seulement lorsqu'elle a de bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est une façon de diminuer ou de rendre moins énergivore. Alors, retenez que plus vous maintenez un haut niveau d'énergie, plus vous dégagez de confiance en vous et plus vous pourrez garder votre bonne humeur et votre santé. Et c'est votre responsabilité de trouver les moyens pour garder un haut niveau d'énergie ou le retrouver. Avec de l'énergie, ça va être plus facile d'envisager les situations avec confiance et de vous épanouir dans tous vos rôles. Vous aiderez en même temps votre enfant à s'épanouir. Et plus vous avez de l'énergie, plus vous pourrez apporter votre contribution dans le monde également. Je sais que c'est extrêmement important pour plusieurs d'entre vous de pouvoir continuer à aider les gens avec vos produits et services encore longtemps ou à travers l'emploi que vous occupez. Alors, le deuxième est du modèle inspirant, c'est une saine gestion de vos émotions. Vos émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Leur rôle, c'est de vous donner des indices du genre de pensée qui vous habite et de vous signifier que vous êtes bien vivant. On est vivant quand on a des émotions, c'est elles qui nous le disent. Alors, les émotions se regroupent en deux grandes catégories, celles qui gravitent autour de la confiance et celles qui gravitent autour de la peur. Alors, les émotions qui gravitent autour de la confiance, ça crée une impression d'expansion à l'intérieur de soi. Et ce sont, par exemple, la satisfaction, la fierté, la reconnaissance, l'amour, l'espoir, l'enthousiasme, la joie. Ce sont des émotions qui nous amènent une impression d'expansion. Elles sont agréables à ressentir, puis elles nous donnent une impression de satisfaction, de puissance intérieure, et ça nourrit notre confiance. Nous vivons aussi des émotions qui gravitent autour de la peur. Ces émotions, elles créent de la contraction en nous. Et souvent, on va les ressentir même dans notre corps. Ce sont comme la honte, la culpabilité, la colère, la jalousie, la frustration, le découragement, l'impuissance, l'incompréhension. Ce genre d'émotions, ça laisse généralement une sensation désagréable et ça nous contracte. Et comme la colère, par exemple, c'est un peu bizarre parce que ça nous fait ressentir une certaine euphorie, mais ça ne dure pas. C'est illusoire. Alors, ces émotions qui contractent, elles demandent à être gérées. Sinon, elles vont finir par nous rendre malades. Il ne s'agit pas de les bloquer ou de les rejeter. C'est pas ça, gérer. Dans ma philosophie, une saine gestion des émotions, ça se fait en 4 points. Pour que vous puissiez vous en souvenir facilement, j'ai donné le nom de IADC au processus que j'ai créé pour gérer les émotions qui m'amènent des tensions intérieures, celles qui m'infligent un stress inutile et qui en infligent aux autres par le fait même, parce que les autres sont sensibles à ce que je dégage, à ce que vous dégagez. Alors le I, c'est pour identifier. Identifier ce qui me dérange, c'est-à-dire les pensées et les émotions qui accompagnent les pensées qui viennent. Le A, pour accueillir tout ça, accueillir ce qui se présente, sans mettre d'étiquette de bon ou de mauvais, simplement réaliser que c'est là. Qu'est-ce qui est là pour moi en ce moment? Parce que c'est la résistance qui crée la souffrance. Et lorsque je réussis à accueillir sans opposer de résistance, j'ai fait un grand pas vers la libération et ça me redonne confiance. Alors, le processus, je vous avais dit que c'était I, A, D et C. Le D, ça m'invite à douter de mes pensées. Elles ne sont pas nécessairement vraies. Et ça m'aide à mieux m'en détacher. Je mettrais le D au carré. Douter pour me détacher. Pas douter de moi-même, douter de mes pensées. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je peux être certaine que c'est vrai? Alors, je peux ainsi progressivement me détacher. Je prends du recul. Je me donne le temps de devenir le témoin de ce qui se passe en moi. Alors, j'évite de m'agripper trop longtemps à ce qui me fait souffrir, parce que si je m'y agrippe, je me fais souffrir moi-même. C'est du masochisme. Alors, quand je cesse d'opposer une résistance à ce qui est là pour moi en ce moment précis, les tensions se dissolvent d'elles-mêmes. Et le C m'invite à choisir par quelle émotion je veux remplacer celles qui me font souffrir. Alors, j'enseigne dans mes formations et j'enseigne ça à mes coachés comment monter dans l'échelle vibratoire en choisissant une émotion qui les fait vibrer à une plus haute fréquence. Vous savez, les émotions qui nous amènent de l'expansion. Mais on n'est pas toujours capable de passer, par exemple, de la honte à l'enthousiasme. Alors, on peut graduellement y aller. Je sais que vous avez entendu dans d'autres conférences probablement des gens parler dans le même sens. Mais retenez que chaque fois que vous faites un choix, ça augmente votre confiance car vous acceptez de prendre la responsabilité de ce qui vous arrive. Je vous suggère tout simplement d'essayer le petit processus pour voir comment ça fonctionne pour vous. Et lorsque j'ai de la difficulté à n'importe quelle étape du processus, j'utilise le EFT. C'est un outil puissant que la plupart d'entre vous connaissent. Et le fait de tapoter sur ma main en me répétant des phrases comme « Même si je suis en colère, que je ne peux pas m'en sortir en ce moment, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. » Ou encore « Même si je sens une angoisse qui m'étreint, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. » Ou encore « Même si j'aimerais ne pas me sentir comme ça, mais que je ne sais pas comment m'en sortir, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. » Et ça m'aide à accueillir ce qui est et à laisser aller les résistances. Alors, gérer nos émotions de cette façon, c'est merveilleux pour la confiance. C'est une bonne utilisation de la puissance qui vous habite. Ça ne vient pas d'un coup, mais ça s'apprend avec la pratique si vous choisissez de vous exercer à le faire. Ces moyens, comme le EFT, comme le IADC, ce sont des moyens merveilleux, à condition qu'on s'en serve. Et vous savez, les premières fois qu'on se sert d'un moyen, on se sent un peu maladroit, mais à force de l'utiliser, on se familiarise. C'est un apprentissage. Alors, ça m'amène au troisième E de la modélisation qui construit la confiance, c'est l'équilibre de vie. Beaucoup de gens se plaignent de manquer de temps. C'est le mal du siècle. Tout le monde manque de temps aujourd'hui et je sais pertinemment que la vie de parent, combinée à toutes vos autres activités professionnelles, sociales, personnelles, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour vous tourner les pouces. Cependant, avez-vous remarqué que tout le monde dispose du même nombre de minutes par jour? Alors, je vous suggère d'enlever de votre vocabulaire la phrase « je manque de temps » parce qu'elle vous garde dans une mentalité de manque et ça crée donc encore plus de manque dans votre vie, pas seulement au niveau du temps, mais un peu partout. Et cette mentalité de manque, ça nous éloigne de l'abondance. Alors, c'est pas très conseillé de la garder. Il est plus bénéfique de remplacer « je manque de temps » par « je réussis à faire des miracles avec le temps dont je dispose ». Je vous suggère de répéter souvent cette petite phrase quand vous sentez que vous sentez un peu submergé. Je réussis à faire des miracles avec le temps dont je dispose. Parce que les histoires que vous vous racontez, ça devient votre réalité. Pourquoi ne pas vous raconter une histoire qui vous donne confiance? Alors, nous sommes tous submergés. Plusieurs de vos précieuses minutes sont utilisées pour le travail et les activités reliées à votre rôle de parent. C'est ça. C'est ce qui est. Alors, tellement de choses et de personnes réclament votre attention. Mais vous en servir comme excuse, ça ne donne rien. La seule manière de changer ça, c'est de faire de nouveaux choix, de faire des actions différentes pour obtenir des résultats différents. Alors, au lieu de trouver des excuses et des raisons de vous plaindre, il est plus sage de vous raconter une histoire différente et de croire en vous-même. Alors, pour en arriver personnellement à prendre mes responsabilités de maman tout en m'acquittant de mes responsabilités sociales, professionnelles et personnelles, j'ai dû développer un sens aigu de l'organisation et une excellente discipline de vie. Et grâce à ça, je suis encore en grande forme et je déborde d'énergie malgré mes nombreuses occupations à un âge où la plupart des gens ont pris leur retraite et je peux donc continuer à faire ce que j'adore faire à tous les niveaux. Alors, vous aussi, vous pouvez faire des miracles avec le temps dont vous disposez. C'est possible. Et n'oubliez pas de prévoir au moins quelques minutes par jour pour vous occuper de vous, parce que vous êtes votre ressource numéro un. Vous devez impérieusement refaire le plein d'énergie quotidiennement. Ainsi, vous pourrez garder votre santé, votre joie de vivre et demeurer un modèle inspirant pour vos enfants et une personne agréable à vivre pour tout le monde autour. Irradier la confiance, c'est un beau cadeau à faire à vos enfants et à vous-même, bien sûr. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour eux de vous imiter. Et pour vous, la confiance, c'est l'ingrédient essentiel pour vous sentir juste en dedans de vous et pour avoir un sentiment de réussite et d'accomplissement dans l'exercice de vos différents rôles.
Super, magnifique. Alors, tu nous as dit qu'il y avait trois clés. Est-ce que tu peux nous parler de la deuxième clé pour développer la confiance chez nos enfants et pour instaurer une culture familiale basée sur la confiance?
Bien sûr. La deuxième clé, c'est de soigner la qualité de vos relations. Le sentiment d'être en relation, c'est un des sentiments à la base de la confiance en soi. La qualité de vos relations est influencée par votre habileté à communiquer. Vous communiquez avec vos enfants surtout par ce que vous êtes, c'est-à-dire par le modèle que vous leur offrez, comme je viens d'en parler. Emerson disait « Ce que tu es résonne si fort dans mes oreilles que je n'entends pas ce que tu dis. » Alors, comme vous le savez, les trois voies principales de la communication, c'est l'écoute, l'expression et le feedback ou rétroaction. Alors, je vais illustrer ce point, ce deuxième point, cette deuxième clé à l'aide de l'histoire d'un couple qui m'a consulté parce qu'ils vivaient une situation préoccupante avec leur deuxième fils. avec leurs deux fils, c'est-à-dire. Surtout le deuxième posait problème, mais leurs deux fils étaient impliqués. L'aîné, âgé de 14 ans, ne pouvait plus supporter son petit frère de 8 ans, et dans un moment de colère, il avait dit qu'il le détestait. Ce cri de révolte avait profondément déçu et attristé les parents, parce que c'était des parents aimants, puis ils voulaient voir l'amour puis la bonne entente revenir dans leur maison. Pour eux, c'était désastreux. Et la querelle entre les deux garçons affectait l'ambiance familiale de plus en plus et minait l'énergie de tous les membres de la famille. Chacun de ces deux parents était intervenu du mieux qu'il le pouvait, mais sans succès. Ils avaient essayé de parler calmement à leur fils pour leur faire entendre raison. Ils avaient joué à l'arbitre. Ils avaient puni. Ils avaient demandé à chacun de trouver des manières de s'entendre avec l'autre. Rien n'avait vraiment réglé le problème. Au contraire, la situation semblait s'envenimer de jour en jour. Alors, ses parents se sentaient déçus, découragés, impuissants, emprisonnés dans un cercle vicieux. Parce que, je le décris rapidement, mais c'est pas, et vous le savez comme parents, c'est pas facile à vivre quand ce genre de situation mine notre énergie. Alors, moins leurs interventions portaient fruit, plus ils se sentaient impuissants et plus vite la colère montait. Alors, tout le monde était perdant et l'ambiance familiale n'était pas très agréable à vivre. Alors, ils voulaient trouver comment aider leur fils à se réconcilier et comment rétablir les liens de confiance entre eux et aussi avec leur fils aîné qui devenait de plus en plus distant et refermé sur lui-même. On aurait pu mettre la faute sur l'adolescence, mais ils savaient que c'était plus que ça. Alors, à partir des trois éléments de la communication, je les ai aidés à se préparer pour intervenir autrement, car avec les mêmes gestes, en posant les mêmes gestes, ils auraient obtenu les mêmes résultats. D'abord, nous avons regardé ensemble le pictogramme chinois qui illustre le mot « écoute ». Ce pictogramme se trouve à la page 2 de votre aide-mémoire. Je l'aime beaucoup parce qu'il rappelle l'importance d'accorder une grande qualité d'écoute aux gens qu'on aime. La longueur de temps d'écoute est moins importante que la qualité de l'écoute. Lorsqu'une personne vous écoute avec ses yeux, ses oreilles, toute sa personne, tout son cœur, toute son attention, vous vous sentez importante et comprise, n'est-ce pas? C'est extraordinaire pour le lien de confiance et ça n'a pas besoin d'être long. Quelques instants de cette qualité d'écoute et on se sent déjà mieux. Par contre, qu'est-ce qui arrive lorsque vous ne vous sentez pas écouté? Vous avez l'impression de ne pas avoir d'importance et vous ne vous sentez pas comprise et vous ne vous sentez pas très bien. Alors, le même phénomène se produit chez l'enfant qu'on n'écoute pas. Inconsciemment, il en conclut qu'il ne vaut pas la peine qu'on s'occupe de lui, qu'il vaut mieux ne pas parler. Il aura tendance à se refermer non seulement à la maison, mais aussi à l'école et avec les autres jeunes puis avec les intervenants scolaires. C'est pas très bon pour sa confiance, tout ça. Alors, en examinant le pictogramme, les parents ont pris conscience qu'ils étaient tombés dans le piège dans lequel tombent malheureusement beaucoup de parents pressés. Ils avaient voulu que leur fils les écoute, mais avaient oublié de les écouter pour mieux comprendre ce qui se passait. Ils avaient cherché à être compris avant de comprendre. C'est l'inverse qui fonctionne. Il vaut mieux chercher à comprendre avant d'être compris. Alors, nos interventions ont plus de chances de porter fruit. Malheureusement, la croyance que les enfants devraient écouter les adultes est encore trop populaire. Elle porte à intervenir rapidement du haut de notre position d'autorité pour régler le problème au plus vite. Ça ne règle presque rien, rarement. Ça va porter fruit, parce que l'enfant qui se fait imposer une ligne de conduite, il y a seulement deux choix, obéir ou s'opposer. Alors, vécu à répétition, les deux ont des conséquences néfastes sur la confiance et sur les relations.
D'accord. Donc ça, c'était concernant l'écoute. Et qu'en est-il de l'expression?
Bien, la qualité d'écoute va influencer la qualité de l'expression. Aussi longtemps que les deux parents dont je viens de parler n'ont pas pris le temps d'écouter en profondeur, ce papa et cette maman ont eu tendance à sévir, à vouloir que les choses changent et vite. Alors, lorsqu'ils ont pris conscience de cela, ils sont retournés auprès de leur fils pour identifier avec eux ce qui se cachait derrière leur comportement. Ils ont invité chacun à exprimer quelles émotions, quels besoins, quelles pensées les portaient à se quereller. Alors, voici ce que ça a donné. L'aîné de 14 ans, il entretenait les pensées suivantes. Il croyait que tout ce que son petit frère cherchait à faire, c'était de l'emmerder et de s'organiser pour qu'il soit puni en se plaignant à ses parents dès que l'un d'eux mettait les pieds dans la maison. Il croyait que ses parents préféraient le plus jeune et qu'ils avaient tendance à prendre parti pour lui. Alors, les émotions que ce jeune garçon ressentait, avec ses pensées, ce genre de pensées suscitait les émotions suivantes. Il se sentait doublement frustré. Il se sentait incompris, pas respecté. Il avait l'impression qu'il n'avait pas sa place vraiment dans la maison. Il en avait assez de toujours avoir son petit frère sur le dos et il voulait avoir la paix. Et ses besoins insatisfaits, c'était le besoin d'intimité, le besoin d'avoir de l'attention et le besoin de savoir que ses parents l'aimaient encore. Pour le petit de 8 ans, lui, ses pensées, c'était qu'en insistant auprès de son grand frère, ce dernier finirait par aller jouer avec lui. Il pensait que si ses parents s'en mêlaient, il réussirait à forcer son grand frère à s'occuper de lui. Il ne comprenait pas pourquoi son grand frère avait changé et le repoussait maintenant, alors qu'auparavant, il l'aimait bien. Les émotions que ça lui apportait, ce genre de pensée, ça l'amenait à se sentir rejeté, abandonné, pas important et triste. Et les besoins insatisfaits, c'était le besoin de compagnie, le besoin d'attention, le besoin de sentir que son grand frère l'aimait encore.
C'est mignon. Et alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'impact de cette intervention des parents?
Ben, les parents ont été surpris et émus de découvrir plus en profondeur. Ils supposaient que c'était un peu ce que les enfants vivaient, mais ils n'avaient pas pris le temps de s'y arrêter. Alors, en prenant la peine de bien discuter avec leurs enfants pour découvrir tout ça, ils ont découvert ce que leur fils vivait, puis ils se sont sentis beaucoup plus compatissants envers eux. Ils ont rassuré leur aîné sur l'amour qu'il lui portait. Et de son côté, l'aîné, lui, il a avoué qu'il aimait son petit frère et qu'il voulait bien jouer avec lui de temps en temps, mais qu'il détestait parfois certains de ses comportements. Alors ça, c'est un autre apprentissage très important pour ses relations futures, parce que faire la différence entre la personne et son comportement, c'est très important pour les relations. Alors l'aîné a appris ça. Et ça l'a rassuré aussi de savoir que ses parents l'aimaient, mais il fallait que ça soit suivi par les gestes, ce qui a été fait. Et le plus jeune, il est bien sûr revenu à la charge auprès de son grand frère pour qu'il s'occupe de lui. Mais connaissant les besoins de son grand frère, il s'est montré moins insistant et plus respectueux. Et durant tout le processus, chacun a fait des dépôts dans le compte de banque émotionnel. C'est important pour la relation, parce que lorsqu'on s'intéresse profondément, lorsqu'on écoute profondément une autre personne, c'est des dépôts qu'on fait dans le compte de banque émotionnel commun. Alors, c'est très important parce que si à un moment donné, on a besoin de faire des retraits ou on revient pour faire un retrait, s'il n'y a rien dans le compte, c'est comme à la banque, ça ne fonctionnera pas.
Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu appelles les retraits, là, par exemple, quand on a besoin de faire un retrait?
Ben, si à un moment donné, on est de mauvaise humeur, ou si à un moment donné, on a appliqué une conséquence qui ne fait pas l'affaire de l'enfant, ou lorsqu'on ne peut pas toujours être au top de notre forme, alors soit que c'est nous-mêmes qui ne sommes pas toujours au maximum de nos capacités, ou soit que on a à réprimander l'enfant ou encore à le ramener dans de meilleures dispositions. Et une chose intéressante que j'ai constatée aussi, c'est que j'ai revu dernièrement ses parents avec leur fils, puis j'ai remarqué avec une joie profonde que le ton avec lequel ils s'adressaient à leur aîné avait changé. Il y a beaucoup plus d'affection et d'amour dans leur voix. Alors ça me réjouit profondément. Et ça vient du fait qu'ils se comprennent mieux, tout simplement. Il y a encore des problèmes occasionnellement. Tout n'est pas réglé d'une seule fois. Les relations, c'est toujours un défi, sauf que lorsqu'on est plus capable de se comprendre et d'être dans l'amour, ça va beaucoup plus rondement et beaucoup plus agréablement. Alors, je vais vous présenter aussi un troisième élément de la communication qui est le feedback. Alors, où on appelle aussi la rétroaction. Le feedback, c'est un outil d'intervention nécessaire pour entamer et continuer avec confiance un processus de transformation. Je dis bien processus, hein, parce que c'est toujours, on est à peu près toujours en transformation. Et le changement, c'est un processus. C'est pas réglé tout d'un coup. Il est indispensable de faire le point régulièrement pour voir où on en est, puis de persévérer jusqu'à l'obtention des résultats désirés. Et si on abandonne, ben, on risque de se retrouver pas loin de la case départ. Alors, dans l'histoire précédente, les parents et leurs deux fils ont appris à faire la différence entre différents types de feedback. On donne toujours du feedback, mais malheureusement, souvent, c'est un feedback négatif. Et ce feedback négatif, ça consiste à faire des reproches, à critiquer, à blâmer, à se plaindre, à punir. C'est du feedback toxique pour la confiance parce qu'il dévalorise tant la personne qui critique, parce qu'elle se sent coupable après, et que la personne qui est l'objet de critique, elle se sent diminuée. Alors, le feedback simplement négatif ne donne rien, et est plutôt nocif et toxique. On peut le rendre constructif, par contre. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Alors, une autre sorte de feedback, c'est le feedback positif. Ça, c'est des façons de faire des dépôts dans le compte de banque émotionnel, comme reconnaître les progrès que chacun fait, apprécier les efforts de chacun durant le processus, dégager les apprentissages que chacun est en train de faire, voir quelles sont les qualités et les forces que chacun est en train de développer grâce aux défis qu'on est en train de relever ensemble. Tout ça, ce sont des dépôts dans le compte de banque émotionnel commun. Et les liens de confiance se tissent plus solidement à travers tout ça, à travers le fait qu'on relève ce défi ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, je reviens au feedback constructif, c'est que quand les mesures prises ne fonctionnent pas, quand les actions déraillent, c'est nécessaire de voir la vérité en face et de se réajuster. Mais pas besoin de blâmer, de critiquer ou de punir. C'est plus efficace et c'est meilleur pour la confiance de s'asseoir ensemble puis de trouver comment on va solutionner le problème. On le voit ensemble le problème, on le regarde, on ne le nie pas, on ne le met pas sous la carpette, on va regarder ensemble, on va le clarifier, on va le voir quelle est la situation désirée à la place de ce qui se passe et on va trouver des actions qui vont nous rapprocher de la situation désirée plutôt que de faire perdurer le problème. Alors, c'est important aussi de s'assurer que chacun a les ressources nécessaires pour passer à l'action. Parce que souvent, quand une personne ne passe pas à l'action dans le sens qu'elle avait dit qu'elle le ferait, c'est parce qu'elle manque de ressources ou qu'elle ne sait pas trop quelles ressources elle peut utiliser. Alors, quand on sait quoi faire, comment faire, puis pourquoi on va le faire, ça donne confiance. D'ailleurs, je vais y revenir un peu plus loin. Et aussi, bien, il faut se donner le droit à l'erreur, le donner aux autres, tout en ne se complaisant pas dans l'erreur, puis en vivant avec les conséquences de nos gestes. Tout ça, c'est très vaste. Les relations, ça fourmille de défis. Je peux juste effleurer tout ça, mais retenons que pour construire des relations où règne la confiance, il est nécessaire de s'écouter pour se comprendre, de s'exprimer pour être compris et de se donner du feedback positif et constructif.
Super. D'accord, et quelle est la troisième clé maintenant pour renforcer la confiance et toujours créer cette culture familiale basée sur la confiance?
La troisième clé, ce sont les informations que vous donnez à vos enfants, souvent sous forme de conseils sages et avisés. Parce que vous avez plus d'expérience, parce que vous avez une conscience plus vaste. Alors, c'est un de vos rôles de parents d'informer vos enfants et de leur donner des conseils. Vous pouvez ainsi enrichir leurs connaissances et de votre expérience et des prises de conscience que vous avez faites. Mais il vaut mieux ne pas en abuser. Pensez à votre propre réaction devant les conseils de vos parents, puis vous comprendrez. Peut-être que vous sentez un petit peu de résistance ou beaucoup de résistance à l'intérieur lorsque quelqu'un veut vous donner des conseils. Alors, donner un conseil, c'est délicat et ça demande d'avoir établi sa crédibilité comme modèle et d'avoir fait des dépôts dans le compte de banque émotionnel au niveau de la relation. Tout comme vous n'avez pas tendance à écouter les conseils qui viennent de personnes peu crédibles à vos yeux ou de personnes avec qui vous n'avez pas une relation de confiance, vos enfants non plus ne le feront pas. Alors, tel qu'illustré dans la pyramide d'influence, plus vous serez un modèle cohérent, plus vous serez crédible, plus vous aurez établi un fort lien de confiance avec votre enfant, plus il accordera de la valeur à ce que vous dites. Alors, pour vous aider à comprendre pourquoi certains de vos conseils passent et d'autres ne passent pas, je vais vous partager un secret, c'est l'ABC d'un conseil efficace. Alors, un conseil efficace, c'est donné d'abord avec authenticité. Le A représente l'authenticité. Ça veut dire que les bottines doivent suivre les babines, comme on dit en québécois. La règle d'or, c'est de ne jamais conseiller à quelqu'un de faire quelque chose qu'on ne fait pas soi-même. C'est nos paroles doivent suivre c'est-à-dire nos gestes doivent être cohérents avec nos paroles. Alors, lorsque rien de ce que vous suggérez ne contredit ce que vous pensez ou ce que vous faites, votre conseil sera bien reçu parce que l'autre ne sentira pas votre propre résistance intérieure. C'est subtil, mais je suis convaincue que vous sentez qu'il y a quelque chose là. Nous sommes tous des êtres télépathiques et nous ne pouvons pas cacher aux autres ce qui se passe en nous. Ils le sentent, et surtout les enfants, bien sûr, qui sont hyper sensibles. Alors, le A, authenticité, le B du conseil efficace, c'est d'adopter les B attitudes. Et c'est-à-dire de focaliser sur le beau, le bon et le bien. Pas de blâme, pas de reproche, pas de culpabilisation. Ce sont trois éléments toxiques pour la confiance. Il vaut mieux focaliser sur ce qui se fait de beau, de bon, de bien, ce qu'il y a de beau, de bien, de bon, de bien dans l'autre. Et pour vous dans votre aide-mémoire, j'ai mis un petit acronyme du mot coach qui vous indique cinq attitudes qui vous permettent de mettre le focus sur le beau, le bon et le bien. Alors, notez que le C, c'est pour cohérence. Quelque part à l'intérieur de vous, ce que vous pensez, dites ou faites, ça sonne juste ou ça ne sonne pas juste. Lorsque vos conseils aide votre jeune à se rapprocher du genre de personne que vous voulez le voir devenir, ça veut dire que c'est un conseil juste. Sinon, il vaut mieux tourner votre langue 7 fois avant de le donner. Et vous allez le sentir à l'intérieur. Et si vous n'êtes pas capable de vous ajuster du premier coup, écoutez cette voix intérieure qui sonne juste ou pas. Et de plus en plus, vous allez voir que vous allez être en mesure d'agir selon cette voix. Le O, notez que c'est pour ouverture. Écoutez pour comprendre, questionnez pour aider à clarifier, pas pour coincer. Acceptez de ne pas avoir raison à tout coup et à tout prix. Admettez vos torts lorsque vous en avez. Voilà autant de manières de manifester de l'ouverture. Et ça crée la confiance. Le A, c'est pour appréciation. Pour apprécier les autres, il est important de vous apprécier vous-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, utilisez tous les moyens que vous connaissez pour vous apprécier. Par exemple, faites la liste de vos qualités et répétez-vous-la avant de vous endormir, au moins 10. Cessez d'accorder du crédit à votre critique intérieure. Prenez le temps de tenir un journal de gratitude ou de noter vos fiertés du jour. Faites la liste de vos besoins et respectez-les, ou en tout cas respectez-en un de plus. Regardez la liste des choses qui vous donnent de l'énergie et donnez-vous la permission de passer à l'action en ce sens. Faites-vous des compliments. Vous pouvez bien sûr faire tout ça avec chacun de vos enfants. Appréciez, c'est merveilleux. Appréciez de manière honnête et spécifique. C'est faire des dépôts au compte de banque émotionnelle. C'est donner des vitamines à ce qu'on veut voir grandir en soi et chez les autres. Et ça met un baume sur les blessures, ça construit les personnes, ça augmente la confiance. Alors, à ne pas se priver d'eux. L'autre C, c'est pour la constance. Agir avec constance, c'est un moyen de faire en sorte que votre enfant se sente en confiance et vous fasse confiance. Comment va-t-il s'y retrouver lorsque quelque chose est parfois accepté, parfois refusé, parfois puni? Vos enfants vont réagir en faisant la tête, ou en faisant à leur tête, ou en devenant méfiants. Ça mine la confiance, alors que la constance construit la sécurité et la confiance. Et le H, enfin, c'est pour humour. L'humour, ça dédramatise et ça détend. L'humour aide à prendre conscience que tout est important mais que rien n'est jamais sérieux. C'est excellent pour votre morale, pour votre santé physique puis pour la santé de vos relations. Une de mes clientes avait l'habitude de se mettre en colère contre sa fille dont la chambre était toujours en désordre. Après avoir identifié ce qui se passait en elle et avoir découvert d'où venait sa colère, de quelle partie d'elle-même ça venait, et d'avoir géré tout ça, elle s'est rendue compte que lorsqu'elle donnait libre cours à sa colère, elle laissait le contrôle à son égo. Et c'est pas ce qu'elle voulait. Elle a compris que, oui, c'était important pour elle d'avoir de l'ordre, mais que c'était pas nécessaire de faire des drames pour ça. Elle me disait que maintenant, elle prend ça avec humour. Mais attention à ne pas confondre humour et sarcasme, parce que dans ce cas précis, ça aurait été facile de tomber dans le sarcasme, et la marge est parfois très mince entre les deux. Alors, l'humour, ça détend, le sarcasme, ça diminue la personne, puis ça détruit la relation. Alors, vous allez sentir la différence. L'humour, ça va vous faire rire, puis le sarcasme, ça va faire mal.
Mm-hmm. OK. Et donc, alors, le C de l'ABC du conseil efficace, c'est quoi le C?
Le C, ça vous indique de commencer votre intervention de la bonne manière. Je vais vous dire comment tout à l'heure. Et en commençant de la bonne manière, vous allez augmenter les chances que la personne qui entend votre conseil soit motivée à le suivre. Il y a trois éléments dans un conseil, le quoi faire, le comment faire et le pourquoi le faire. Et dans les trois, ce n'est pas le quoi ou le comment qui motive, c'est important le quoi et le comment, mais ce qui motive une personne à suivre un conseil, c'est quand elle sait pourquoi c'est avantageux pour elle de le faire. Alors c'est là qu'il faut commencer, parce que c'est là que ça prend du sens pour elle, ça lui donne un motif. Lorsque vous donnez un conseil à votre enfant, vous avez plus de chances qu'il le tienne, qu'il en tienne compte, lorsque vous commencez par dire pourquoi il aurait avantage à suivre votre conseil. Par exemple, si vous dites à l'enfant, faites tes devoirs avant de regarder la télé. Pour vous, ça va de soi, mais pas nécessairement pour l'enfant. Vous aurez plus de chances d'être écouté si vous lui précisez un ou deux avantages de faire ce que vous suggérez. Par exemple, tu vas te sentir libéré lorsque ce sera fait, ou encore tu auras assez de temps pour terminer, tu vas être sûr d'avoir assez de temps pour terminer, ou encore un de tes idoles sportifs, il a pris l'habitude de faire en premier ce qui lui tentait le moins, et ça l'a amené à la réussite qu'il connaît. Vous connaissez votre enfant, vous savez ce qui le motive, ou si vous ne le savez pas, essayez de le découvrir. C'est un très bon exercice à faire, c'est une façon de vous rapprocher de votre enfant. Vous pouvez lui poser des questions de manière à mieux le connaître, à savoir qu'est-ce qui est important pour lui. Alors, chaque fois que vous lui donnez un pourquoi qui a du sens pour lui, ou que vous l'aidez à trouver ce pourquoi, vous allez avoir moins besoin de pousser ou d'insister, puis lui, il va moins résister. Alors, si vous dites à votre enfant quoi faire, même si vous lui expliquez comment faire, il y a de fortes chances que s'il ne sait pas pourquoi, il ne le fasse pas. Ça ne veut pas dire que vous devez toujours tout expliquer de long en large, mais ça veut simplement dire de vous assurer que l'enfant a un motif valable pour lui de passer à l'action. C'est comme lorsque vous vendez un produit ou un service. Le client a besoin d'un motif pour acheter. Quand vous donnez un conseil ou que vous voulez que votre enfant suive ce conseil, vous êtes en train de vendre une idée. Alors, les enfants, ils le signifient. Ils posent souvent la question « Pourquoi je devrais faire ceci ou cela ?» C'est pas une question banale pour eux. C'est un signe qu'ils ont besoin de savoir. Alors, vous gagnez à répondre à l'avance. Et si vous n'avez pas répondu à l'avance, trouvez une façon de répondre à son pourquoi. Prenez-le au sérieux. C'est une des qualités de tout grand leader et des bons vendeurs de préciser le pourquoi. Alors, vous êtes des leaders importants. Vous êtes les leaders dans la vie de votre enfant, en ce qui concerne son éducation. Et vous avez souvent à vendre des idées. Alors, vaut mieux s'exercer et être bonne vendeuse ou bon vendeur. Commencez par le pourquoi, ça augmente votre habileté à persuader. Et pour réussir en affaires, c'est une qualité très importante aussi. Alors, toute habileté, ça se développe et ça nourrit votre sentiment de puissance et de confiance chaque fois que vous développez une habileté. Alors, vous pouvez ainsi enrichir la vie de votre enfant qui suivra plus facilement vos sages et judicieux conseils. Vous savez, un de mes amis dont j'ai traduit le livre, James Paddiman, dans « Oser vivre libre », il disait « Améliorer votre existence ne demande pas d'énergie supplémentaire, juste de réorienter vos efforts vers des voies profitables ». Alors, vous disposez maintenant de 3 clés de plus pour réorienter vos efforts vers des voies profitables. Je vous suggère de les prendre au sérieux et d'utiliser là-dedans ce que vous vous sentez capable de mettre en pratique immédiatement. La clé numéro 1, modéliser ce que vous souhaitez voir apparaître chez eux. Pour vous aider à être un modèle inspirant, veillez aux 3 E, refaites souvent le plein d'énergie, gérez les émotions qui provoquent de la contraction afin de les remplacer graduellement par des émotions qui vous amènent de l'expansion. Et le E numéro 3, l'équilibre, ménagez-vous du temps, ne serait-ce que quelques minutes par jour, pour maintenir un bon équilibre entre vos différents rôles. Et la clé numéro 2, soignez la qualité de vos relations en effectuant fréquemment des dépôts au compte de banque émotionnel. Offrez une grande qualité d'écoute pour comprendre avant d'être compris. Identifiez, exprimez vos pensées, vos émotions, vos besoins avec honnêteté, respect et compassion. Et donnez du feedback positif et constructif pour favoriser la persévérance dans l'action et la réussite. Et allez en chercher aussi du feedback, c'est important. C'est important qu'on se comprenne de part et d'autre. Et la clé numéro 3, lorsque vous donnez des conseils à vos enfants, souvenez-vous de l'ABC du conseil efficace et allez-y avec authenticité, avec les B attitudes et en prenant soin de toujours commencer par le pourquoi. Ainsi, vous serez mieux équipé pour créer une culture familiale où règne la confiance individuelle et mutuelle et je vous certifie que la joie et l'amour, c'est très agréable à ressentir. Vous le savez déjà de toute façon.
Oui, on n'en doute pas. Écoute, merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé. Il y a vraiment énormément il y a plus que ces 3 clés, ou en tout cas, c'est des clés à multiples détentes, puisque chacune est développée largement avec plein d'autres choses. Alors, je vais quand même, malgré que tu nous aies déjà donné beaucoup de choses, je vais te demander si certaines souhaitent aller plus loin, avoir plus d'informations sur tes activités, sur ce qu'on peut faire pour développer la confiance, etc. Comment est-ce qu'on peut faire?
Bien, le renforcement de la confiance, c'est un sujet très vaste, comme tu dis, et j'ai créé un blog sur des thèmes en lien avec la confiance. Alors, vous pouvez le lire en allant à www.clubreussirensemble.com. www.clubreussirensemble.com. Profitez-en tant qu'à visiter le site pour lire les articles qui sont déjà là, ceux qui vous intéressent, et pour vous abonner. Comme ça, vous allez le recevoir continuellement jusqu'à ce que vous mettiez fin à votre abonnement, parce que vous êtes toujours libre de le faire. C'est gratuit. C'est une bonne source d'informations et de réflexions puis de trucs pour vivre vos relations avec plus de confiance, d'assurance et de bonheur. Et vous pouvez aussi vous procurer mon premier livre, Développer l'estime de soi de votre enfant pour l'aider à déployer ses ailes. Il suffit d'aller sur le site www.alinetardif.com, A-L-I-N-E-T-A-R-D-I-F, www.alinetardif.com. Et à la section produits, vous verrez que vous pouvez vous le procurer. Et en ce moment, j'aurais une petite faveur à vous demander, toutes celles qui acceptent, ça va me faire énormément plaisir de recevoir ce cadeau que vous allez peut-être me faire. Je suis en train d'écrire un 2e livre à l'intention des parents. Donc, en plus de laisser vos commentaires et vos questions suite à cette conférence, s'il vous plaît, me faire part de vos préoccupations, de vos inquiétudes, de vos questionnements, en même temps que de vos espoirs et de vos rêves quant au développement harmonieux de vos enfants. Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous pose problème? J'ai besoin de vous pour mieux vous aider. Alors, si le cœur vous en dit, merci d'avance de me faire parvenir tout ça. En allant sur mon site, vous allez avoir aussi mon adresse courriel et vous pouvez même le faire sur le site de Réussir au féminin.
D'accord, oui, tout à fait. Là, la conférence se termine et donc j'en profite pour dire à toutes les auditrices que à la fin de la conférence, il y a toujours les commentaires ci-dessous. dans lesquels vous pouvez poser des questions, faire part de vos remarques, éventuellement témoigner si vous avez expérimenté des choses dont Aline a parlé. Et donc, vous pouvez aussi poser des questions ici. Aline viendra visiter, répondre à vos questions. Et vous pouvez le faire aussi bien sur le site Réussir au féminin que sur son site à elle. Il y a moyen, par ces deux biais-là, d'avoir de l'information et de maintenir le lien avec Aline. Et sur le site réussiraufeminin.com, maintenir le lien entre vous et entre toute l'énergie qui se constitue pendant ce sommet. Donc voilà, merci encore Aline pour tout ce beau partage. Et je suis sûre que les auditrices sont ravies d'avoir découvert tout ça.
Ben, merci à chacune de vous d'avoir été là. Merci Sophie de m'avoir invitée. Et bon processus de renforcement de la confiance à chacune de vous.